Les apatrides anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous pour discuter immigration, paranoïa sécuritaire et racisme, des actualités locales
et internationales, des capsules humoristiques et des coups de gueule, des invités, des reportages, des grands dossiers, un agenda antiraciste
et même une minute coloniale. Les apatrides anonymes sur choc.ca, c'est votre antidote contre les discours populistes et la montée de la droite identitaire.
J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Hip-hop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour 2 heures de bombes sonores.
What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Polypop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour 2 heures de bombes sonores.
Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Polypop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour 2 heures de bombes sonores.
Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal.
Bienvenue à ce nouvel épisode de Pop en Stock. Mon nom est Mégane Bédard et cette semaine, nous arrivons à l'épisode 211 de Pop en Stock. Donc, on commence, ça avance. Et donc, cette semaine, on va discuter d'un sujet. En fait, avant d'arriver dans le sujet, je vais présenter les gens qui sont avec moi en studio parce que je les aime beaucoup. Puis, je veux qu'on entende leur belle voix. Donc, d'abord et avant tout, on a un deuxième épisode avec nous, Charles Gauthier-Ouellet, salut.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, très bien, merci.
Très contente que t'aies aimé ton expérience et décidé de revenir pour une deuxième fois à Pop en Stock, donc...
Ça me fait plaisir, j'ai bien hâte d'en parler encore aujourd'hui avec vous.
Yeah! Ensuite, à côté de toi, on a Audrey Boutin, salut!
Hey, moi aussi, c'est mon deuxième épisode à Pop en Stock.
Pour vrai?
Oui.
Oh mon Dieu!
Mon premier, c'était Jane Austen.
Qui va être prochainement en onde, donc il y a des petits problèmes techniques qu'on est en train d'essayer de réparer, mais donc j'ai vraiment hâte que ça arrive en onde parce que c'était un épisode très intéressant, puis tu as été très pertinente dedans aussi. Alors, et je suis certaine que ça sera encore le cas aujourd'hui. Et
j'espère vous faire honneur malgré la grippe qui m'assaille violemment ce mercredi soir enneigé.
La maudite grippe.
Maudite grippe.
T'es pas tout seul dans ta team, je pense. Donc, on va continuer le tour de table avec une invitée un peu impromptue que j'ai amenée avec moi aujourd'hui, mais que c'est toujours le fun d'avoir à Popanstock avec nous, Stéphanie Roussel.
Allô! Bonjour. Je suis vraiment pas à mon deuxième épisode. Moi, je sais pas je suis à combien, par contre. Est-ce qu'on m'entend? Moi, je m'entends pas dans mes écouteurs.
Nous, on t'entend.
On t'entend bien, oui.
OK, ben Catherine, elle a joué avec mes sons, fait que je pense qu'elle a coupé mon son d'écouteur. C'est pas grave.
Non!
Salut!
Salut!
Et... Ah! Yeah, je m'entends, je t'entends. Okay.
Merci, technologie, Catherine. Catherine Côté, dernière et non la moindre invitée. Salut.
Oui, allô.
Oui, allô.
Oui.
Et donc, c'est avec toi aussi qu'on a discuté dernièrement donc du sujet d'aujourd'hui. En fait, c'est avec toi que le sujet est né, parce qu'on jasait ensemble, toi puis moi, il y a une couple de semaines dans un resto à sushi. Puis,
oui, on faisait
donc,
ça.
Donc, avant d'aller dans les anecdotes très personnelles, je vais vous mettre un peu en contexte. Donc, aujourd'hui, on va parler de Misery, oui, le récit de Stephen King, le film de Bob Rainer, c'est ça?
Rob Rainer,
merci.
C'est pas un récit, parce que c'est pas son histoire de vie.
Ah, mais c'est un texte.
C'est un roman.
C'est mes déformations de narratologue.
Oui, c'est ça, mais c'est pas un récit dans le sens d'histoire vécue.
Non.
C'est son roman.
C'est son roman.
Faut que ça veuille dire absolument ça, récit?
Ben.
En tout cas, je veux pas non plus.
En termes de création, d'habitude, récit, c'est plus dans le sens de essai puis témoignage de vie. Fait que. C'est comme Radio-Canada qui font des appels au récit, là. C'est ça. C'est comme des tranches de vie qu'il faut que t'écrives. C'est pas de la fiction.
The more you know.
Ouais, c'est ça. C'est deux contextes différents. Donc, en narratologie, on ne peut pas dire ça pas en tout, non, mais c'est pas grave. Donc, le roman de Stephen King, pardon. Et donc, en fait, le sujet est né... je pense que c'est important de mettre un peu le contexte de la naissance du sujet parce que c'est assez étrange un peu comment ça nous est venu à l'esprit. Donc, en fait, c'est plus comme une série de coïncidences qui sont arrivées dans ma vie. Et je me suis dit que ça pouvait pas n'être que des coïncidences. Donc, on allait un peu se garocher sur le sujet. Puis parce que je pense que c'est important d'en parler. Donc, il y a quelques semaines, en fait, le 1er novembre, j'ai participé au Speed Colloque du Graphime à l'Université de Montréal, donc dont le sujet principal était les représentations et les enjeux contemporains des fans et des fandoms, donc co-organisé par un de nos collaborateurs récurrents de Popanstock, Simon Laperrière. Et donc, j'ai participé là, puis il y a eu beaucoup de discussions, des tables rondes très intéressantes. Et donc, quand on abordait le sujet un peu par rapport aux manifestations contemporaines des fandoms, notamment l'exemple très évident de ce qui est arrivé avec Sonic. Donc, quand le design initial est sorti, les hordes de fans se sont mis à crier à l'horreur, puis on s'entend que c'est vraiment une source d'horreur, le premier design de Sonic, là, avec les petites dents, puis comme le regard vide, ça fait vraiment peur. Donc, il y a eu cette manifestation-là d'inconfort et du refus de ce Uncanny Valley-là qui ne devait pas arriver au cinéma. Et ça fait que toute l'équipe créative s'est remise au travail et il y a eu un nouveau design de Sonic qui est sorti. Donc, c'était un peu une journée où on se mettait à réfléchir à toutes ces manifestations-là de la voix des fans et la manière dont ça influence l'industrie et les gens qui, les créateurs, les créatrices qui produisent du contenu de culture populaire. Et durant cette journée-là, durant ce speed colloque-là, l'exemple de Misery est revenu à plusieurs reprises. Donc, à chaque fois qu'on mentionnait un peu cette force-là de groupe de fans, on se disait « Ah oui, mais c'est une violence presque comme dans Misery. » C'est pas vraiment ça, là, mais... mais ça a été name-droppé à plusieurs reprises. Fast-forward quelques semaines encore, Audrey, Catherine et moi, on a participé à une émission des Amazones sur Stephen King où vous avez brillamment étalé votre génie, puis j'ai fait des interjections plus ou moins pertinentes. Mais ça a été comme un peu le début de la réflexion, puis avec les échos que j'avais entendus de Misery durant cette journée-là et ce que vous avez amené durant cette émission-là à écouter sur les ondes de choc. Donc, on en est venu à la conclusion que ça serait intéressant de faire justement une émission
sur Misery, le roman et le film, mais aussi sur toutes les représentations des fans dans la culture populaire et aussi celles qui tournent un peu autour de ce type de représentation-là, parce que on va y arriver dans quelques instants, mais Misery propose une certaine représentation de la figure des fans et aussi la figure des femmes. Mm-hmm. Donc, qui est souvent très problématique, ancré dans le réel, ancré dans beaucoup de préjugés. Puis, on va essayer de décortiquer ça à partir, justement, de Misery. Donc, je vais te passer la balle, Catherine, pour faire un résumé aussi de l'histoire. Puis, Charles aussi, je pense que tu l'avais relu rapidement avant de venir, parce que moi, j'ai juste vu le film. Puis, je pense que le roman est vraiment plus complexe et intéressant aussi que le film, qui est très bon, le film. Mais...
Oui, oui.
Donc, juste pour rappeler l'histoire rapidement pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu slash lu.
Oui, donc, Misery, c'est le je sais pas combien-tième roman de Stephen King. Jadis, j'y connaissais tout dans l'ordre, mais là, j'ai oublié. Il a été publié en 1987 et adapté en film en 1990 par Rob Reiner. Ça raconte l'histoire d'un écrivain de romans populaires qui s'appelle Paul Sheldon, qui écrit des romans à l'eau de rose. Une série de romans qui met en scène une jeune femme qui s'appelle Misery Chastain. Ça se passe dans les années 1800. C'est plein de romans. C'est ça, c'est des revirements de situation un peu improbables. Puis beaucoup de... C'est des trucs très, très fleurs bleues. Et ça se vend énormément. Mais Paul Sheldon, lui, veut être ce que lui considère un écrivain sérieux. Donc, il vient d'écrire son premier roman sérieux. Il était dans une retraite d'écriture au Colorado, c'est l'hiver. Il conduit pour retourner chez lui. Il prend une gros accident de voiture. Et par hasard, il y a quelqu'un qui se pointe sur la route juste en arrière de lui. C'est une femme qui est une infirmière. Fait qu'elle le prend, tu sais. Puis elle l'amène chez elle s'occuper de lui parce qu'il est très, très mal en point. Il a une jambe cassée. Puis je veux dire, il a été énormément blessé. Et elle finit par réaliser que, oh mon Dieu, mais c'est Paul Sheldon, l'auteur de ces Misery qu'elle adore tellement lire. Et elle finit par découvrir son nouveau roman dans son sac. Par le lire et lui dire non, mais tu sais, ça, c'était pas aussi bon que ce que tu fais d'habitude. T'sais. D'habitude, tes romans Misery, c'est super bon, ça se lit super vite. Ça, c'était comme plein de sacres, puis c'était vraiment pas un livre de qualité par rapport à ce que tu fais d'habitude. Puis là, Paul est comme, mon Dieu, mais complètement folle, mais ok, oui, tu sais, peut-être, d'accord. Je t'habite dans ta maison, genre, sure, t'as raison là, pour l'instant, tu sais. Et elle a, l'infirmière qui s'appelle Annie Wilkes, elle a en sa possession le dernier livre de la série de Misery qu'elle n'a pas encore lu. Et c'est justement le roman dans lequel Paul Sheldon a décidé de tuer son personnage principal pour pouvoir move on avec sa carrière puis commencer à écrire de la littérature sérieuse. Fait que là, elle lit ça. Et quand elle réalise qu'il a tué le personnage de la série puis que la série n'existera plus, elle pète un câble solide. Puis là, elle dit, tu peux pas faire ça parce que ça fonctionne pas de même. Tu peux pas juste tuer le personnage parce que t'es tanné. Tu vas rester ici, puis moi, je vais te donner du papier puis une machine à écrire, puis tu vas réécrire le dernier tome de Misery. Tu vas faire renaître le personnage de Misery, puis tu vas lui donner une autre fin, parce que la fin que t'as faite, elle me satisfait pas.
C'est ça, la prémisse. Je veux dire, avec ce dernier commentaire-là, on en a parlé récemment aussi de Game of Thrones, puis de la fin qui nous satisfait pas.
Ouais, D.B. Weiss puis David Benioff sont en danger, là. C'est comme, ça pourrait arriver, ce genre de truc-là, avec eux, là.
C'est pas arrivé avec Sherlock Holmes?
Mais oui, c'est ça. Oui, puis on peut pas. Oui. C'est ça qui est arrivé avec Sherlock Holmes. C'est même récit. Mais, là, c'est un récit.
Mais même là, c'est un récit. Oui, mais sauf que Arthur Conan Doyle n'a pas été kidnappé. Hein. Une
non.
chance.
Mais la twist horrifique. Mais oui. La mort de Sherlock Holmes serait en fait le moment déclencheur de la fanfiction parce que les gens ont décidé de redonner naissance à Sherlock par eux-mêmes puisque Conan Doyle avait refusé de le faire. Donc, on considère beaucoup la mort de Sherlock comme l'élément déclencheur de la fanfiction, qui est aussi un phénomène de fan très intéressant.
Mm-hmm. Ouais. Mais je lisais récemment une entrevue de Henry Jenkins, le théoricien des fandoms. Je suis pas tout d'accord avec lui, mais je trouvais que c'est très pertinent dans une entrevue qu'il a donnée à un journaliste. Il dit que le fandom naît de deux éléments essentiels, la fascination et l'insatisfaction. Mm-hmm. Donc, c'est un mélange de ces deux choses-là. Puis, définitivement, la mort d'un personnage important, c'est une très grande source d'insatisfaction mm-hmm. qui provoque justement des mouvements de communauté de fans comme ça, comme on a avec Sherlock et Arthur Conan Doyle, et qui sont repris ensuite dans la fiction avec l'exemple de Misery, si mm-hmm. on veut. Donc, mais il y a une façon aussi de représenter le personnage de Annie Wilkes, qui est très, très, qui est très codifié. Donc, c'est codifié de façon très religieuse aussi, parce que le personnage est très croyant. Donc, il y a tout aussi une façon de créer ces personnages-là qui sous-tendent ou qui ont des connotations quand même assez puissantes, que ce soit le sacré. Je pense que Charles, tu nous en parlais un peu avant d'entrer en onde, là.
Donc, oui. Est-ce que tu veux que je rembarque tout de suite?
Oui, ben oui. Vas-y.
Oui, c'est ça. Donc, l'idée, en fait, derrière Misery, comment moi je l'aperçois, c'est que l'œuvre de Paul Sheldon est vue et perçue par les fans de Misery comme une expérience du sacré. C'est-à-dire que dans le moment où elles lisent cette œuvre, elles peuvent quitter leur univers profane, leur réalité et la banalité du quotidien pour entrer dans un moment qui est autrement sacré. Puis là vient le problème, dans le fond, l'élément déclencheur, qui est la mort de Misery par son auteur. Pour les fans, on voit maintenant, dans le fond, c'est la mort de cette expérience-là du sacré, et Annie Wilkes présente cette insatisfaction-là du fandom. Donc, chez, dans le fond, le théoricien Guy Ménard en parle vraiment comme une expérience qui est autre. Et c'est ce qui permet de déplacer au-delà des limites habituelles de l'expérience de la vie de tous les jours. Et chez Misery, Annie Wilkes, qui habite, elle, en campagne avec des animaux seuls, se retrouve avec un roman où elle peut voir des rebondissements, des amours, plusieurs choses qu'elle ne vit pas dans son quotidien. Puis elle peut ainsi vivre par procuration sa vie. Puis l'expérience du sacré émerge de là. Et l'insatisfaction émerge du fait que on cherche à déplacer et de passer de sa vie profane à cette expérience sacrée qui n'existe plus sans cet espace et ses raisons de vivre.
Je sais pas si si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Catherine.
Je suis absolument d'accord. Il y a quelque chose il y a quelque chose d'obsessif, voire maladif, dans la fascination que Annie Wilkes a pour la série de livres Misery. Je veux dire, c'est pas une réaction qui est très, très tempérée que de décider de séquestrer quelqu'un parce qu'il a pas écrit un livre que vous aimez. Là, ça, c'est un peu extrême. Puis justement, ça peut découler de cette... c'est quoi le mot qui me manque, là? Pas du zèle, mais...
Fanatisme.
Oui, c'est fanatisme, c'est ça. D'où le mot fan.
Ben oui,
fan.
C'est ça, parce que quand on va fouiller dans l'étymologie du mot fan, ça vient justement de fanatisme religieux, mais il y a toute une connotation d'excès et il y a comme un espèce de déplacement. Quand on parle des fans, il y a souvent une façon de pathologiser la figure qui est un peu similaire à l'expérience du sacré que tu décris, Charles, comme quand il y a beaucoup de théoriciens de fans, surtout des psychanalystes, qui ont essayé de comprendre cette fascination-là fanatique qui vire souvent dans des manifestations extrêmes, soit de violence ou de stalkage ou de peu importe, là, parce que c'est sûr que ça peut sembler extrême, ces représentations-là peuvent sembler extrêmes, mais il y a des manifestations réelles qui sont similaires. C'est juste le cas légendaire maintenant de John Lennon et de David Chapman qui est une de ces manifestations-là qui soit quand même ponctuelle, mais que ça existe. Donc, cette pathologisation de la figure du fan, c'est aussi de voir comme l'objet d'amour du fan, ça devient comme une manière de compenser des manques affectifs ou de sur-sémiotiser un objet, là, pour le dire, je sais pas comment le dire autrement, là, mais pour lui donner plus de valeur qu'il en a réellement, et aussi pour que ça devienne comme un objet de transfert émotionnel qui prend trop de place, selon les psychanalystes, dans la vie d'un sujet, donc, et qui provoque des comportements qui seraient, entre gros guillemets, que je fais dans les airs ici, pathologiques. Ce qui est pas nécessairement le cas, mais je pense qu'il y a quand même un certain fond d'une logique qui se tient, à mon avis, derrière ce type de théorie-là, sans nécessairement tomber dans la pathologie, nécessairement, là, mais je pense que de la manière dont on crée son identité de fan en investissant un objet ou un individu, une vedette, ou un
un sport quelconque, il y a ce transfert-là affectif qui fait que éventuellement il y a une modification des comportements ou aussi une modification de la manière de voir le monde. Je sais plus où est-ce que oui. je m'en vais en ce
moment. Puis, qu'on tombe aussi dans la pathologie, si on veut, encore entre guillemets, quand ça tombe dans la souffrance plutôt que dans le plaisir. Je pense qu'on oui. peut faire les mêmes actions d'être un fan, puis de le faire toujours avec plaisir, puis de s'en nourrir finalement de cet objet-là. Puis à un moment donné, les cas extrêmes justement qui sont très ponctuels et qui seraient, si on veut, pathologiques, ça c'est des cas qui tombent dans la souffrance, qui tombent dans la souffrance puis la violence. Mais je pense que la même action ou le même rapport à l'objet peut s'analyser de la même façon sans que ça soit nécessairement pathologique, sans que ça soit nécessairement que ça amène à des actions violentes ou à un manque de contrôle ou à de la souffrance chez le fan visé par ce ressenti-là. Là.
C'est ça, c'est que l'objet culturel devient en quelque sorte une composante identitaire, mais ça peut se faire d'une façon très positive au sens où on trouve notre communauté, on trouve des gens avec qui communiquer, échanger un amour et même trouver notre place dans un monde qui peut nous rejeter. Mais ça peut aussi devenir pathologique quand cet objet-là, notre identité dépend de sa stabilité. Donc souvent, les fan rage qu'on va voir en ligne, ce qui arrive, c'est quand cet objet-là perd sa stabilité. On va penser par exemple à Ghostbusters quand on l'a réadapté avec des femmes ou Star Wars avec un Stormtrooper noir. L'objet, tout à coup, a été subverti et l'identité qui s'était construite autour de cet objet-là est mise en danger. Donc, le fan cherche à retrouver la stabilité de l'objet en menaçant la personne qui a déstabilisé cet objet-là. Et c'est à cet instant-là qu'on va voir la pathologie...
Ça se dit pas très
bien. Ça se
bien,
dit pas
hein?
bien, mais vous m'avez tous compris. du fan, quand on veut rechercher cet objet-là et retrouver ce qu'il était... Parce qu'en même temps, notre vision du monde en dépend. Les gens qui apprécient le même objet que moi sont mes amis et les gens qui ne l'aiment pas ne sont pas dignes de mon temps, ne sont pas dignes de ma présence. Et quand tout à coup l'objet se subvertit et permet à ces gens-là qui auparavant n'aimaient pas cet objet-là de l'apprécier, ben il y a une sorte de trahison parce que tout à coup on a l'impression que la personne qui m'avait fourni cet objet-là ne veut plus être en communication avec moi, mais en communication avec les gens que j'avais rejetés précédemment. Et parfois, c'est souvent les communautés marginalisées, donc les communautés racisées, LGBTQ. Et là, tout à coup, c'est à ces gens-là qu'on s'adresse. Et les communautés de fans se sentent blessées et trahies parce que tout à coup, le boys club est mis en danger.
Blessées et trahies et aussi légitimisées dans leur réaction, à mon avis, là, dans ce sens.
C'est ça
ce
peut que... aussi être légitime quand on ouais. pense, par exemple, à The 100, quand on a tué un personnage queer.
Ouais.
Les gens... Je pense que dans ce cas-là, avait raison d'être en colère parce que c'est encore une fois un personnage queer qu'on leur enlève et auquel ils pouvaient s'identifier. Donc, encore une fois, une même situation peut être vue d'un point de vue positif ou négatif parce qu'ici, quand les fans se sont fâchés, on a fait réaliser aux gens qui écrivaient qu'ils avaient un blind spot, qu'ils n'avaient pas constaté qu'ils participaient à une longue tradition de « bury your gaze », qui est de toujours tuer les personnages queer parce que c'est des personnages... qu'on voit un peu comme... dont on peut se débarrasser, qui sont moins importants. Donc...
Ouais, aussi, dans la mort, ça arrive aussi avec les personnages racisés, dans la mort permet comme un renouveau narratif, mais ça devient juste un plot device, puis ça devient un peu cheap. Fait que ça l'invisibilise. On en avait déjà parlé à l'émission ici avec Maud Lafleur puis Sandrine Gallant. Donc, on avait parlé de communauté LGBTQIA+, de plus, et de la représentation en fiction. Mais donc, c'est intéressant de voir aussi que ce que tu dis, Audrey, justement, tout ce phénomène-là de repoussoir d'une autre communauté, Matt Hills, tu appelles ça une subjectivité imaginée, et justement, qui crée une fausse, si on veut, sensation de légitimation personnelle par rapport à notre communauté, au sens où, par exemple, si on prend l'exemple assez évident, mais qui est quand même assez... stéréotypé et accepté par une majorité de la population des fanboys, c'est-à-dire des fandoms dont la plupart des membres de la communauté initiale, par exemple en comic book avec Marvel, pensaient qu'il y avait juste des hommes dedans. Parce que ce que la fiction leur renvoyait, c'était cette image-là. C'était le fait qu'il n'y avait que des hommes qui consommaient des comic books, alors que ce n'était pas nécessairement le cas. C'est juste que la fiction a un peu... devient le moteur aussi.
Mais c'est que même la commercialisation de ces objets-là permet la légitimation de ce sentiment. parce que si on pense à Marvel et Guardians of the Galaxy, comme on se parlait en dehors des ondes, ben le matériel promotionnel, souvent il n'y avait pas Gamora dessus, il n'y avait que les boys. Donc on donne un boys club, donc les garçons qui consomment Guardians of the Galaxy sont légitimés dans leur réaction de rejet face aux, aux femmes qui apprécient ce film-là, parce que c'est, ils disent, ben, c'est à moi qu'on s'adresse, parce que c'est à moi qu'on cherche à vendre des objets. Donc on sent en quelque sorte comme les élus de cet objet-là. Puis je pense que Misery, pour revenir à Misery, ben justement, elle a l'impression qu'on s'adresse à elle avec les romans de Misery. Et quand Paul Sheldon décide de tuer le personnage et de passer à quelque chose de complètement différent, ben c'est une trahison qu'elle ressent, parce que tout à coup, cette personne-là qui lui fournissait ses fantasmes, ses objets de consommation, décide de couper la conversation avec elle et de s'adresser à un nouveau public dont elle se retrouve exclue. Donc c'est de là que sa colère naît. Tout à coup, on refuse de lui adresser la parole. C'est un peu comme une communication qui lui est refusée.
Mm-hmm. C'est intéressant. J'ai comme deux avenues auxquelles on pourrait prendre aussi. Parce qu'il y a toute cette... Il y a comme une tendance quand même assez dominante dans ce qu'on dit depuis tantôt, qui est le mépris envers les femmes, les fameux. Il y a le mépris envers les fans qui est généralisé aussi dans une dichotomie low-bro, high-bro. Là. Donc, Misery, c'est quand même un bon exemple de ça avec le roman à l'eau de rose. Ouais. Donc,
moi, c'est ça, c'est vraiment mis de l'avant, c'est-à-dire que Misery est un roman de l'eau de rose. Il veut faire quelque chose de sérieux, il veut être pris au sérieux, il veut gagner un prix littéraire, mais il en est très conscient que ça ne se fera pas par Misery, que ça va se faire par son nouveau roman Fast Car ou par d'autres choses qu'il pourrait écrire.
Quelque chose d'intellectuel, si on veut.
Exactement, comme si Misery, par le fait que c'était populaire, n'était nécessairement pas, pouvait pas avoir des valeurs intellectuelles. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les fans dont il parle sont nécessairement des fans qui naissent de la culture populaire. Il dit à deux ou trois reprises que sa situation n'aurait pas pu arriver s'il avait été tel autre auteur de littérature plus savante, mais parce qu'il était Paul Sheldon, l'auteur de Misery, œuvre populaire, nécessairement, c'est pour ça que ça lui arrivait à lui, parce qu'il avait des fans qui n'auraient pas autrement.
Il y a une belle réflexion sur la... L'écriture, ben c'est pas une belle réflexion, je veux dire, c'est très violent, mais il y a une grosse réflexion sur l'écriture. C'est plus ça qu'il y a dans Misery plutôt qu'une réflexion sur quelles sont les communautés de fans.
Oui.
C'est une réflexion de la part de l'écrivain sur, mais c'est quoi mon rapport à mon lectorat? Et c'est un rapport d'amour-haine vraiment marqué. Puis il y a toute la question du gender qui entre en ligne de compte, c'est vrai, parce que Fast Cars, son roman sérieux, c'est un roman pour hommes, violent, plein de sacres. Paul Sheldon est assez macho. Il a l'air un petit peu misogyne, ses bords une fois de temps en temps. Fait qu'il y a vraiment, c'est ça, il y a un rapport très, très problématique avec les femmes qui consomment ses produits de consommation. Mais en plus, il est absolument conscient du fait qu'il dépend de ces personnes-là pour vivre. Et qu'il a beau détester ce qu'il fait, il en a besoin. Il est dans un... C'est ça, il y a... Le religieux entre en ligne de compte aussi dans ce sens-là, parce qu'il y a une espèce de culte du fan. Lui-même respecte énormément Annie Wilkes, parce que c'est, ben, la figure d'Annie Wilkes, dans le fond. Pas nécessairement la personne, mais plutôt ce que ça représente, parce que c'est grâce à Annie Wilkes qui s'est rendu où il est dans sa vie, dans sa carrière, qui a réussi à avoir autant d'argent, mais en même temps, il la déteste parce qu'il est à sa merci. C'est comme si elle était une espèce de déesse qui a un pouvoir absolu sur ce qu'il fait, et aussi une omniscience, parce qu'il y a énormément de paranoïa, tu sais, lui est séquestré, il a l'impression qu'elle est constamment au courant de ce qu'il pense. Il peut penser à essayer de s'échapper, il peut penser à essayer d'agresser Annie, de, t'sais, la frapper pour essayer de se sauver de la maison et tout, puis constamment il s'arrête en se disant non, mais probablement qu'elle voit venir, probablement qu'elle sait ce que je suis en train de faire, parce que dans le fond, c'est pas juste une femme, c'est pas juste une personne, c'est comme mon lectorat. Mais c'est quelque chose de plus grand.
C'est ça, c'est une grosse relation de codépendance, puis un exemple que j'avais envie d'apporter, c'est le Rocky Horror Picture Show, où vers la fin du film, il y a le personnage de Columbia qui va dire à Frank « All you do is take, take, take », puis à la fin, tu jettes les gens. Et ce qu'on voit pendant le film, c'est tout au long du film, les gens doivent adorer se mettre à genoux devant Frank. Et au final, quand les fans décident de se retourner contre lui, ben Frank meurt. Donc, on représente beaucoup cette espèce de relation codépendante-là, où on ne sait pas trop où se situe le pouvoir, en fait. On ne sait pas si c'est la figure adorée qui le possède ou si c'est les fans. Parce que si on retire un des deux, le pouvoir disparaît. Donc, c'est une relation qui a besoin de ces deux pôles, mais ces deux pôles-là sont constamment en conflit, donc c'est...
Ça revient au rituel, moi, je trouve. Puis aussi l'idée du fait que ce soit des romans d'amour où c'est toujours une même trame narrative qui se répète comme dans un rituel où il y a certains éléments. Je pense qu'on retrouve ça dans toutes les communautés de fans. Puis finalement, c'est de s'entendre sur c'est quoi les éléments minimaux du rituel. Mm-hmm. Fait que c'est ça le problème dans des communautés de fans qui s'opposent à... Mon Dieu, j'oublie le nom. En tout cas, bref, que ce soit des femmes au lieu des hommes qui prennent les personnages principaux. C'est que pour eux, l'unité minimale, c'est que l'identité de genre est importante dans le personnage. C'est pas juste que Sherlock Holmes vous avez une pipe, un petit biret, puis que l'histoire se passe en quatre actes narratifs normalisés, c'est aussi que ce soit un homme. Ça fait partie du rituel, comme un autre rituel prendrait, je sais pas, une branche de thym ou je sais pas quoi, là. Donc, je trouve qu'il y a cette idée-là aussi dans le livre, parce que je pense qu'elle reprend aussi des fois en disant ça peut pas se passer comme ça, comme si le rituel était pas... L'auteur lui-même connaissait pas son propre rituel, puis l'accomplissait pas correctement, si je me trompe pas, il y a un peu de ça.
Oui, puis parfois... Il y a une fois où elle lit un extrait de son livre, puis elle vient le voir, puis elle est super fâchée, puis elle dit « Tu peux pas faire ça, parce que ce que tu fais, c'est tricher. » Puis tu peux mettre des cliffhangers, mais il faut que tu aies une vraie explication. Puis elle lui fait tout un long speech sur, c'est ça, les courts-métrages qu'elle allait voir quand elle était petite, puis il y a toujours un cliffhanger, puis tu sais. Mais là, quand il y a un espèce de jump cut qui a pas de sens, puis qu'on te donne une explication qui a pas de sens, c'est tricher. Puis lui, au début, il l'écoute, puis il est comme, ça dit n'importe quoi, mais voyons donc, c'est moi qui l'ai écrit. Tu sais, je l'ai écrit hier, là, le manuscrit, je sais qu'est-ce qui... Puis après ça, il réfléchit, puis il est comme, non, elle a raison, dans le fond, j'ai triché. Fait qu'il y a comme ce...
Il enfreint le rituel, si on
oui,
veut.
Oui, exactement. Mais lui est tellement collé qu'il est pas capable de le percevoir. Puis elle, justement, est investie là-dedans. Elle est fanatique. Fait qu'elle, elle comprend comment ça fonctionne. Elle comprend c'est quoi les rouages. Puis lui a l'impression qu'il les maîtrise. Mais dans le fond, il a besoin d'elle dans cette relation de codépendance vraiment malsaine, là.
Ouais, c'est intéressant aussi de voir, parce qu'il y a, par exemple, pour les méga super productions qui se font aujourd'hui, comme les Star Wars, Marvel et compagnie, mm-hmm. Il engage des fans qui maîtrisent très bien le corpus, justement, comme, conseiller aussi sur la production puis sur où la franchise devrait s'en aller. Fait que je trouve que c'est un parallèle quand même assez intéressant.
Ce qu'ils n'ont pas fait avec Game of Thrones, j'imagine.
Non.
Ça, c'est triché. Ça, c'est un bon exemple. De...
Les fans deviennent en quelque sorte les régisseurs ouais. de code. Ils s'assurent que voici les règles du jeu et ils deviennent les arbitres. Ils s'assurent qu'on joue ouais. en fonction du jeu. Et s'il y a une tricherie qui est faite, ben on va dire ce personnage-là ne ferait jamais cette action parce que... Et voilà.
Pis c'est intéressant parce que en plus à de nombreux endroits, surtout au début du récit, il en parle. Puis Annie n'est pas intéressée par les rouages de la création à proprement parler. Elle veut pas savoir toutes les petites notes qu'il prend, tous les petits détails qu'il garde pour écrire son texte. Elle veut le texte à proprement parler. Donc elle a une idée qui est quasiment divine de cette création là. C'est un objet qui apparaît out of the blue, il n'y a pas de travail méticuleux derrière ça. C'est une œuvre mystique qui apparaît. Puis, il y a un endroit qui est super intéressant, une citation où, justement, tu te rends compte qu'elle parle de ce Dieu qui crée les humains, qui crée l'univers et tout. Sauf que le Dieu dans Misery, c'est Paul Sheldon. C'est lui qui peut créer le récit, qui peut créer l'histoire. Sauf qu'à la différence d'un Dieu... catholique ou un dieu dans une religion actuelle, Annie, elle a un contrôle sur le dieu Paul Sheldon, c'est-à-dire qu'il est dépendant d'elle pour sa nourriture, pour sa subsistance, pour sa survie. Donc, ce que ça donne comme impression, c'est que le fan, ici, c'est lui qui fournit les informations, c'est lui qui a le gros bout du bâton dans cette histoire-là. Puis, c'est un peu l'idée générale du fan et de la célébrité, c'est-à-dire qu'il y a cette dépendance-là. Ou si le fan n'accepte plus la célébrité perd son statut, parce que c'est un statut qui lui est alloué par autrui.
C'est arbitraire, là, aussi. Ça me fait penser un peu au principe derrière tout le roman de American Gods, où les dieux ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est vraiment une manifestation d'une croyance. Puis plus la croyance est intense, plus le dieu a de pouvoir. Puis c'est vraiment un peu ce rapport-là dont tu parles, Charles, qui est montré, mais qui est manifesté de façon très littérale dans Misery, au sens où non seulement il dépend de Annie pour son salaire qui paye sa nourriture et compagnie, comme Annie en tant que lectorat, mais aussi il dépend littéralement de Annie parce que il sait qu'elle est chez elle, puis c'est elle qui le nourrit, c'est elle qui le lave, c'est elle qui, comme, qui lui amène tous ses petits soins, même si elle lui casse les pieds. Là.
C'est un discours intéressant sur le travail invisible que les femmes font, c'est de le mettre en comparaison avec le travail d'une infirmière qui va prendre soin de lui, qui a des compétences de care, puis tout ça, avec les femmes qui augmentent finalement, qui font vivre ces récits-là, qui les soignent, si on veut, en faisant des fanfictions, en les alimentant, en les nourrissant, puis en faisant grossir la popularité, puis le contenu même d'un auteur de série, surtout parce qu'il va pouvoir réutiliser les éléments que les fans vont avoir créés gratuitement pour elle ou lui. Donc moi, je trouve que c'est quand même intéressant comme mise en parallèle d'avoir choisi la figure de l'infirmière, qui est aussi une figure, bon, de tueurs en série assez fréquente, mais quand même dans ce côté-là, pour dans l'association de la codépendance du fan, de ce travail-là gratuit de care, je trouve que c'est intéressant comme mise en parallèle.
Mais même ce que je trouve intéressant dans Misery, à un certain moment, c'est quand Annie est tellement fâchée qu'elle va s'enfermer dans une cabane dans le bois, puis elle abandonne Paul Sheldon, et Paul Sheldon se met à paniquer parce qu'il se rend compte que si il a peur qu'elle se suicide carrément, tellement elle est fâchée d'avoir perdu Misery. Puis là, il se met à se dire, mais si elle se suicide, qu'est-ce que je vais faire? Personne ne sait où est-ce que je suis. Personne ne sait c'est qui cette femme-là. Je vais mourir. Et pour survivre, il se retrouve obligé à boire son urine. Donc, on peut en faire une sorte de lecture symbolique que l'écrivain, sans son fan, est obligé de récupérer ses propres déchets. Parce que le fan n'est pas là pour le nourrir, pour lui donner des nouvelles idées, des nouvelles avenues, pour permettre à la création de décupler, donc il est obligé de recycler du matériel qu'il avait déjà
à l'intérieur de lui-même. C'est vrai que c'est intéressant.
C'est ça. Wow!
C'est un peu psychanalytique.
C'est super intéressant, puis je trouve que le parallèle que tu fais, Stéphanie, c'est vraiment ça, parce que, tu sais, juste la manifestation de J.K. Rowling sur Twitter qui dit que Dumbledore était gay depuis le début, puis, mais c'est les fanfictions qui ont décidé de mettre ça aussi au point, puis c'est elle qui a le dernier mot au final de qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui est pas canon, mais...
Puis après, elle trahit ses fans. Puis elle le fait pas, elle le met pas en scène.
Ouais. Puis elle engage, Johnny Depp.
Non, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Je veux dire, elle a trahi Dieu ou je sais pas qui dans Misery ça représenterait, mais terrible décision.
Mais c'est ça, il y a encore une fois, c'est la manifestation de ce rapport-là d'amour-haine ou aussi de nourishment, de voyons, je sais pas comment dire.
L'exemple de J.K. Rowling est bon dans la codépendance parce que je pense que son œuvre a été sanctionnée à cause de ces choix-là. Elle a pas respecté le fandom. Elle avait affirmé que c'était vrai. Finalement, elle a manqué de respect envers cette affirmation-là. Puis je pense qu'elle a perdu des fans à cause de ça. Je pense que Harry Potter en souffre finalement de cette décision-là. Elle a pas été dans le dialogue avec ses fans réellement. Elle a dit oui quand ça lui a donné, puis quand il y a dû vraiment le mettre en scène ou se mettre elle-même en danger, prendre des risques, ben elle a décidé de trahir ses fans puis de respecter probablement les gens qui ont de l'argent. Mais au final, c'est une mauvaise décision parce que la codépendance se fait davantage avec les fans, je pense, de ces grands fandoms.
Ben oui, définitivement.
Dans Misery, un exemple que je trouve qui est vraiment très poignant par rapport à toutes ces choses-là, c'est la figure de Scheherazade. C'est-à-dire, très tôt, le personnage va dire « Je suis comme elle », c'est-à-dire « je suis le narrateur, c'est moi qui décide ». Mais en même temps, le pouvoir, au final, il faut que je raconte, il faut que je produise quelque chose, sinon je vais me faire trancher la tête, je vais me faire exécuter. Et ce qui est particulier, et c'est pour ça que ça marche bien avec Scheherazade, c'est qu'il y a juste lui, en tant qu'auteur, qui peut écrire Misery. Sinon, même les fanfictions, il n'y a pas cette valeur-là que le fait que ce soit Paul Sheldon qui écrive la suite. Donc, ça doit être lui qui doit écrire. Mais par contre, si ça n'entertaine pas assez, si on ne réussit pas à garder le suspense, il y a toujours la menace de l'exécution et de la mise à mort symbolique et réelle dans ce cas-ci.
Mais la mise à mort symbolique, oui, parce que c'est un peu comme l'exemple avec J.K. Rowling, c'est la nouvelle franchise qu'on essaie de mettre sur pied, on n'a pas écouté les fans, puis la franchise risque d'être mise à mort à cause de ça. Même chose qui est arrivée avec Alien, même chose qui est arrivée avec plein d'autres franchises qui sont un peu mortes avant d'arriver à sa troisième film de sa trilogie, par exemple, parce qu'on n'a pas écouté... On n'a pas écouté la personne qui nous nourrit, au final.
Oui, ils ont trop fait confiance à l'autorité du créateur et non à la relation de dialogue entre le créateur et le public.
Ouais, définitivement. C'est très intéressant. Belle analyse.
On sort des fleurs comme
on
ça.
On sort des fleurs, mais c'est vraiment très intéressant. Puis je vais revenir aussi à la question du gender et aussi du gatekeeping dont tu voulais parler, Audrey. Sur toute cette histoire-là aussi, le rapport entre l'identité et la construction de cette identité-là en rapport avec une œuvre en particulière, la mise en danger de cette identité-là lorsque l'œuvre se met à évoluer pour intégrer une représentation du plus réel, en fait, de son fandom, qui est plus diverse que qu'est-ce que les fandoms...
qu'est-ce qu'elle laisse penser.
C'est ça, exactement. Et donc, il y a toute cette problématisation-là. Et à l'inverse, dans les représentations qu'on a des femmes, on reste très ancré dans les stéréotypes de genre. Un de mes exemples préférés d'une représentation stéréotypée des fans, c'est reste un film... très mauvais, à mon avis, de 2009, Fanboys. Donc, c'est un film sur... C'est comme des fans de Star Wars. Ces fans-là, qu'est-ce qui... C'est loin dans ma tête, là, mais tu me diras si je me trompe, Catherine.
Je m'en rappelle pas.
Ouais, c'est ça. C'est des fans de Star Wars.
Je vais t'aider,
Il y a un des membres qui est atteint du cancer, puis il va mourir prochainement. Puis c'est juste avant la parution en salle de Phantom Menace. Ouais, c'est ça. Donc, son diagnostic lui dit qu'il va mourir avant que le film... sort en salle. Donc, il décide d'aller dans le ranch de George Lucas, puis d'aller voler le scénario ou peut-être les bobines du film pour le voir avant qu'il sorte en salle. Mais cette histoire un peu touchante donne l'occasion de voir toute la masculinité toxique des fans de Star Wars, du moins celle qu'on pense qui est là. En ce qui était latente à l'époque et qui est très explicite aujourd'hui.
C'est plate parce que c'est une belle prémisse, me semble.
Ben oui. C'est que, dans le fond, Kristen Bell va être le seul personnage féminin qui se joint à cette bande de joyeux lurons. Et, ben, elle n'est pas fan de Star Wars. Elle fait juste suivre les garçons parce qu'elle est amoureuse d'un des garçons.
Ah,
ouais. Puis, ben, son amour de Star Wars est très premier degré. Elle a peut-être un peu vu les films. Elle les trouve pas mauvais, mais elle trippe pas non plus, puis les garçons lui remettent souvent sur le dos qu'elle aime pas ça, pour de vrai, que c'est pas une vraie fan, qu'elle devrait pas être avec eux.
Mais je pense qu'elle aime quand même un peu ça.
Elle aime un peu ça, mais pas au même niveau que les garçons qui peuvent répondre à tout.
Mais je pense que c'est là aussi qu'il y a un niveau sexiste dans l'idée de soit t'es fan parce qu'il y a un attachement émotionnel, premier, alors qu'il y aurait les fans qui auraient du savoir. Puis ce niveau-là de fan serait plus important ou plus valorisé, légitime que les fans qui sont effectivement attachés à l'objet. Je pense que là, ça représente bien ça dans cette situation-là.
Oui, parce qu'à un certain point, ils doivent répondre à des questions pour...
Oui, c'est vrai. Il y a comme un questionnaire pour voir s'ils sont assez fans d'eux. Là.
Et bien, naturellement, c'est pas elle qui peut répondre parce qu'elle, elle a juste apprécié les films. Et il y a aussi un certain point dans le film où elle se retrouve dans le costume de la princesse Leia. Le fameux costume de Slave Leia. Donc, Kristen Bell, qui est une actrice incroyable, au final, elle est très schtroumpfette, phénomène de la schtroumpfette, pour citer Martine Delvaux. Donc, elle doit un peu se soumettre au code du Boys Club pour pouvoir partir avec eux dans cette aventure-là. Puis en plus, au final, on apprend qu'elle était amoureuse d'un des garçons depuis le début. Donc, malheureusement, c'est pas une représentation très intéressante des fans. Des fans féminines de Star Wars, parce que ça donne l'impression que les filles qui aiment Star Wars, c'est parce qu'il y a un garçon quelque part dans le lot. Puis c'est un peu comme Gloria Steinem qui avait beaucoup eu de backlash pendant les élections de 2016 aux États-Unis quand elle avait dit que les filles qui voulaient voter pour Bernie, c'était juste pour plaire à leurs copains. Donc, on enlève la gentilité des femmes de pouvoir choisir les objets qu'elles choisissent d'aimer en disant « Non, mais au final, c'est juste pour plaire à un garçon que t'aimes ça. » Puis c'est aussi beaucoup avec les fake gamer girls.
Ouais, fake geek girl. Mais c'est intéressant aussi de voir comment juste cet exemple-là réitère beaucoup, beaucoup de stéréotypes de genre et d'associations, au sens où dans Misery, on a une femme qui aime les romans à l'eau de rose et qui démontre un attachement affectif excessif par rapport à ces romans-là, donc dont le sujet principal est l'amour, et on est vraiment dans les stéréotypes de genre ici très forts. Et de l'autre côté, on a la science-fiction, qui est un genre masculin et il y a juste les gars qui peuvent aimer ça, en tout cas selon ces représentations-là qui sont stéréotypées et qui sont encore assez présentes aujourd'hui, un peu moins dépendamment de quel film, mais en 2009 ça l'était, c'était très fort, mais les films des années 2000 ils brillent pas par leur féminisme, mettons.
Rarement.
Mais c'est ça. Puis encore une fois, on a justement l'association des genres qui sont redistribués sur l'échelle hiérarchique de la valeur, au sens où la science-fiction, en tant que genre intellectuel, c'est un genre masculin et donc plus légitimé que le roman à l'eau de rose. Et ensuite, on a toutes les représentations de femmes fans réels qui sont souvent attachés, associés, par exemple, les fans de musique. Donc, on peut penser aux Beatles, Elvis Presley. C'est les réactions de cris hystériques, là, les images qui nous sont souvent remises à l'avant. Et encore une fois, on enlève leur agentivité au sens où elles sont victimes de toutes ces émotions bouillantes. Là.
Encore une fois, c'est une division entre les connaissances puis les émotions, parce que la science-fiction, c'est la politique, c'est les connaissances scientifiques qu'on met en récit, ouais. Alors qu'un roman d'amour, ben, c'est des émotions.
Mais dans Fanboys, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore une deuxième dichotomie entre celle des fans de Star Wars et des fans de Star Trek,
oui.
Où la connaissance, il ne faut pas en avoir trop parce qu'il faut rester cool. Mm. Parce que les fans de Star Trek, ils sont dork. Oui. Ils connaissent des choses, puis ils utilisent des phasers, puis parle de vraie science.
Il faut pas tomber dans le côté intellectuel non plus. Il faut pas. Il faut avoir une connaissance de geek, une connaissance très impressionnante, exhaustive, mais jamais tomber dans la connaissance légitimée par une autre institution, qui est l'institution scientifique, universitaire ou peu importe. Là.
Ouais,
c'est ça. On fait pas de la génétique littéraire avec Misery. Elle s'en fout de ses notes. Elle s'en fout de comment que le récit va se construire. Elle veut se rappeler des petits éléments auxquels elle est attachée dans la narration.
Mm-hmm. Oui. Tout le monde s'en tourne vers moi.
Mais c'est drôle parce que la science-fiction a été inventée par une femme, par Mary Shelley. Ouais. Donc, cette espèce de dévaluation-là, pour moi, est toujours profondément comique.
Oui, définitivement. Oui. Mais il y a aussi le fait que tous ces fandoms-là, notamment le fandom de Star Trek, qui a rejeté pendant un moment ses fans, mais ces femmes, mais dont l'existence même dépend des figures féminines qui étaient au début, donc à l'émergence du fandom. Donc, la première saison de Star Trek a été renouvelée parce que des femmes ont décidé de partir justement des pétitions qui encourageaient les autres, donc qui font encore ce travail-là du care pour
la communauté.
On essaie d'aller, on reach out pour aller voir les gens, on leur demande de s'impliquer, on leur demande de faire des conventions, puis c'est ces femmes-là aussi qui ont créé les premières slash fiction avec Spock, puis Kirk, puis c'est des figures qui sont très, très présente dans les fandoms depuis le début des fandoms tels qu'on les connaît aujourd'hui, que ce soit même avec Sherlock Holmes et d'autres avant, mais qui sont constamment invisibilisés dans les représentations ou seulement flat-out méprisés aussi et ridiculisés parce qu'elles sont associées à des émotions très intenses.
Mais c'est que je pense que reconnaître tout ce travail-là invisible qui se fait derrière les coulisses et qui permet aux objets culturels de perdurer, c'est en quelque sorte reconnaître que le mythe du créateur tout-puissant n'est qu'un mythe. Parce que si on reconnaît que tous ces objets culturels-là ont réussi à survivre aussi longtemps parce que des femmes écrivaient des fanfictions, organisaient des conventions, se rejoignaient en groupe pour discuter de leur objet, ben c'est reconnaître que peut-être qu'au final, mon objet n'était pas si fort que ça, n'était pas si bien écrit ou si bien conçu. C'est vraiment parce que des fans féminines se sont réappropriées et lui ont permis de vivre. Donc, en quelque sorte, c'est avouer que moi, en tant que créateur, je ne suis pas tout puissant, j'ai dépendu de mon fanbase. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a une certaine
invisibilisation.
qui va se faire parce que c'est, en quelque sorte, délégitimiser mon travail. Mais en même temps, il y a un autre travail tout à fait légitime qui est celui des fans.
Oui, puis c'est pas juste de pas vouloir le légitimer parce que, tu sais, c'est le mythe de la personne qui peut réussir par elle-même, mais je pense que ce mythe-là se retrouve dans toutes les situations sociales où des personnes nettoient les planchers, font le ménage, font tout le travail, justement, invisible derrière. Je pense que ça défraie, tu sais, toute la société est construite selon ce mythe-là.
Self-made man.
Oui. D'une personne tout puissante qui est capable de faire des d'inventer des choses elle-même, puis on efface en arrière tout le travail qui lui permet en fait d'avoir le temps, d'avoir l'énergie, d'avoir les ressources pour effectuer ce travail-là. C'est, je pense que dans la création encore plus, parce qu'on a voulu, tu sais, on met une autorité, un pouvoir au créateur encore plus.
Ouais, mais c'est aussi délégitimiser tout ce travail-là invisible, mais aussi maintenir, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, le boys club, maintenir mm-hmm. l'illusion que le fandom est quelque chose, est un objet ou une masse homogène qui est constituée de gens qui ont les mêmes valeurs, mm-hmm. qui ont la même mm-hmm. origine, que tout ce désir-là d'appartenance dont tu parlais, Audrey, au début de l'émission, mm-hmm. qui est... C'est une illusion, le fait qu'un fandom, c'est pas une unité, c'est pas quelque chose... Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, tout le monde n'a pas la même origine, tout le monde ne vient pas de la même place, et les gens n'aiment pas nécessairement les œuvres pour les mêmes raisons. Mm-hmm. Puis on le voit beaucoup aujourd'hui avec les gros backlash qui se manifestent sur les réseaux sociaux. Donc on a parlé souvent à l'émission de Star Wars mm-hmm. et de tous ces décalages-là. Mais en même temps, ça montre un peu la laide vérité qu'un fandom, c'est pas une unité homogène, et c'est pas dans les œuvres, malheureusement, qu'on l'a vu en premier, c'est dans les réactions des fandoms et les réactions des gens individuels qui s'attaquent sur Internet.
Puis ça me fait penser à quelque chose d'autre qu'on a dit dans la discussion, dans le sens où on, en faisant ça, en hiérarchisant ces deux positions-là, on empêche aussi le renversement. Le fan ne peut jamais devenir créateur ou créatrice. Puis on voit, tu l'avais dit toi-même, Charles, dans le livre, elle peut pas elle-même écrire le livre. C'est lui qui va devoir l'écrire. Elle peut le guider là-dedans, elle peut l'accompagner, elle peut le soigner, elle peut lui donner des idées, le corriger, mais elle n'aura jamais l'autorité pour écrire le livre par elle-même. Puis je pense qu'il y a beaucoup ça dans les fans, on délégitime les fanfictions, on délégitime ce pouvoir-là de création parce qu'on veut pas qu'ils remplacent, que ces femmes-là remplacent le Boys Club. On veut pas que ces fans-là aient assez de pouvoir pour prendre place dans les institutions, dans les industries culturelles. Je pense qu'il y a ça beaucoup dans cette invisibilisation-là et délégitimation. Ouh! Yes! J'ai réussi le deuxième mot.
Et gros mots.
C'est ça, c'est des gros mots.
Ouais,
pathologisation.
La pathologisation.
C'est la zisation, c'est la zisation.
Ouais,
oui. Ça, c'est compliqué.
Mais il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a certains fans qui ont réussi à accéder à le statut de créateur, mais ce ne sont que des hommes. Steven Spielberg, George ouais. Lucas.
Ou on les dévalorise, pensons à Fifty Shades of Grey.
Oui, même chose.
Mais oui. Qui parle d'une œuvre de fan, mais quand même qui est une fan qui a écrit une fanfiction. Et...
Mm-hmm. Non, c'est ça. Il y a After aussi, qui est une série en 4 volumes. Si mémoire est bonne, ça fait longtemps. Ça, mais Twilight, là, je pense.
Non, c'est pas Twilight. Fifty Shades of Grey est une fanfiction de Twilight.
Donc, ça,
puis je pense que Twilight est quand même plus reconnu dans la société de manière légitime que Fifty Shades of Grey. Je pense que même dans la hiérarchisation de la valeur culturelle d'un objet, Twilight se positionne au-dessus de Fifty Shades. Fait que je pense qu'il y a quand même encore ce rapport-là qu'on voit.
Mm-hmm. Mais il y a aussi le fait que les fans de Twilight même sont malgré tout encore méprisés. Oui. Tu sais, parce que on aime les histoires d'amour avec des vampires qui brillent puis des loups-garous. c'est jamais dit sur un ton non ironique ou mm-hmm. non méprisant. Là, c'est, mm-hmm. c'est un peu dommage, mais ça reste encore très présent. Donc, dans la manière dont on imagine les fans.
Puis Audrey en a déjà parlé tantôt aussi avec cette idée-là de trahison, donc c'est ça pourquoi il y a vraiment un dédain chez certaines personnes, c'est que ces vampires-là ne souffrent pas du soleil comme les autres vampires, comme l'idée qu'on se faisait et ce retournement, ce renversement-là mm-hmm. vient troubler des gens qui sont des fans de vampires, de Anne Rice et autres.
C'est ça, le code, mm-hmm. c'est l'imagination, là. On peut faire ce qu'on veut, mais c'est tellement rendu ancré de...
C'est dans l'unité minimale. Un vampire, ça brûle au soleil.
Tu peux faire ce que tu veux, mais pas ça.
Va pas au soleil. l'émission tire à sa fin. Est-ce que vous aviez des suggestions de lecture, d'écoute, de films ou d'autres films?
En général?
En général, non, mais qui parle du sujet d'aujourd'hui.
Ah, qui parle
pardon. Je t'ai compris.
Ouais, qui mentionne aussi des. Parce que il y a quelques. Si les histoires un peu gruesome et à la Misery vous intéressent, il y a The King of Comedy qu'on avait déjà mentionné lors de l'émission du Joker, qui est aussi une. Avec Robert De Niro, qui est une histoire un peu similaire, mais il y a aussi un film dont j'ai appris l'existence ce matin, qui s'appelle The Fan, aussi avec Robert De Niro.
Partout, qui Robert De Niro.
Qui tue aussi son objet de fascination, qui est un joueur de baseball, en fait. Donc, on n'a pas parlé des fans de sport, mais ça aurait été...
C'est un autre game.
C'est un sujet en soi. Même chose pour la musique. Donc, on a parlé beaucoup de cinéma, roman, littérature, fiction. Donc c'est deux films qui... je viens de réaliser que les deux, c'est Robert De Niro et quelqu'un d'autre. C'est un peu...
Mais sinon, il y a le film A Star Is Born de Bradley Cooper, qui met quand même en scène, en tout cas, quelqu'un qui est adulé. Bon, d'abord, l'homme qui est adulé, le musicien qui est adulé, puis la fille qui comprend pas finalement ce rapport-là que les fans entretiennent avec lui, puis comment lui peut survivre à cette idée-là d'être reconnu tout le temps, puis elle devient populaire, et là, lui souffre de cette popularité-là, fait que ça met aussi encore un peu en jeu ces questions-là du fan, qui a le droit d'avoir des fans aussi, qui a le droit d'être reconnu, d'avoir cette reconnaissance-là, puis comment ça peut amener du pouvoir, du déséquilibre.
Moi, je suis en retard, mais j'aimerais suggérer la série documentaire sur Netflix de Toys That Made Us, parce que c'est super intéressant, parce que le documentaire s'intéresse beaucoup aux fans et demande aux fans de certains objets culturels de se joindre au documentaire et de parler de leur amour de la chose et de pourquoi ils ont acheté les jouets. Et on voit que les jouets, surtout l'épisode sur la lutte que je vous recommande particulièrement est excellent. On voit à quel point les fans sont importants dans le marketing d'un objet et peuvent carrément être à l'origine du marketing de cet objet-là. Surtout dans l'épisode de la lutte, ce qu'on voit, c'est que c'est des fans de lutte qui ont fait des pitchs à des compagnies de jouets pour qu'ils produisent des jouets à l'effigie des lutteurs. Puis j'ai trouvé ça super intéressant de voir que le domaine du jouet devient presque l'endroit où les fans peuvent se prononcer et avoir des choses pour eux.
C'est vraiment intéressant.
Il y a un documentaire sur les Brownies, les fans, ceux qui aiment My Little Pony, qui est particulièrement intéressant pour voir justement ces représentations-là et tout l'univers qui tourne autour du fandom.
Donc, on a une belle liste de lectures à consommer prochainement. Merci Charles, merci Audrey, merci Stéphanie et merci Catherine.
Merci à toi!
Merci Mégane!
Très intéressante émission. Merci à vous à la maison qui nous écoutez quand on fait des émissions de temps en temps. Puis, donc, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock qui va porter sur Death Stranding, si je me trompe pas. À la prochaine! Bye bye!
Watch twist and crest and